La parole des contes avec Anne Wong.
Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans notre émission hebdomadaire. Vous souvenez-vous, quelques mois ou quelques années peut-être, nous avions observé des histoires autour des métiers. Les vieux métiers comme forgeron, charbonnier, couturier. Et cette fois-ci, nous envisageons un métier improbable et qui n'a pas trop subi de modifications, à savoir les paresseux. Alors, dans cette première édition sur les paresseux et ce qu'ils adviennent, nous verrons quatre contes des frères Grimm, donc trois d'abord avec des hommes paresseux, pour finir avec une paresseuse aux rouées, afin d'introduire notre prochaine émission avec trois versions différentes du conte intitulé « Les trois fileuses » à travers trois versions différentes. Eh bien... était paresseux, et bien qu'il n'eût rien de plus à faire qu'à mener chaque jour sa chèvre au champ, il n'en soupirait pas moins en rentrant chaque soir à la maison, sa tâche quotidienne accomplie. Oh, en vérité, c'est une besogne accablante et un pesant fardeau que de garder jour après jour sa chèvre, ainsi par tous les temps, tout au long de l'année, jusqu'à l'arrière-automne. Et encore, si l'on pouvait se coucher et dormir pendant ce temps-là. Mais non, il faut garder l'œil ouvert sans cesse, pour qu'elle n'aille pas endommager les jeunes arbres ou pénétrer dans quelque jardin en traversant la haie. Ou pour qu'elles ne prennent pas la poudre d'escampette, tout simplement. Alors, je vous le demande, quel repos et quelle joie de vivre peut-on connaître dans ces conditions-là? Il s'asseyait, se concentrait et réfléchissait tant qu'il pouvait, tourner et retourner ses idées en cherchant le moyen de décharger ses épaules de ce fardeau exténuant. Longtemps, longtemps, ses grands efforts et ses méditations ne le menèrent à rien. Mais un jour, brusquement, il eut comme une illumination. « Je sais ce que je vais faire! Je vais épouser la grosse Alice qui possède aussi une chèvre. » Elle pourra bien garder la mienne en même temps. Et mon martyre sera fini. Eh fifi, eh nini. Alors, Henri quitta son fauteuil, fit mouvoir ses membres fatigués, sortit, traversa la rue car il n'avait pas plus de chemin à faire pour aller chez les parents de la grosse Alice, auxquels il demanda la main de leur laborieuse et vertueuse fille. Ah, les parents n'hésitèrent ni ne réfléchirent longtemps. Eh, qui se ressemble, ça semble, pensèrent-ils. Et ils donnèrent leur consentement. Donc, la grosse Alice était maintenant la femme d'Henri et gardait les deux chèvres. Henri se coulait d'heureux jours, ne se souciant d'aucun autre travail que celui de cultiver et d'entretenir sa paresse. Mais il lui arrivait pourtant d'accompagner sa femme de temps à autre, par-ci, par-là. C'est tout simplement pour mieux jouir du repos et le goûter après cela. Le vrai goût s'en perdrait, sinon. Seulement, la grosse Alice n'était pas moins paresseuse. « Mon cher Henri, lui dit-elle un jour, pourquoi nous empoisonner l'existence et nous gâcher le meilleur de notre jeunesse sans nécessité? Ne serait-il pas bien mieux de nous débarrasser de ces deux chèvres qui nous privent du meilleur sommeil avec leur bêlement le matin? On pourrait les donner aux voisins pour avoir une ruche en échange. Nous n'aurions que le mal de lui trouver une bonne place au soleil derrière la maison, et puis ce serait tout. Nous ne nous en occuperions plus. Les abeilles, on n'a pas besoin de les garder, ni de les mener au champ. Elles volent au loin, retrouvent toutes seules le chemin de la maison et font leur miel sans qu'il en coûte la moindre peine. « Ah, voilà qui est parlé en femme intelligente !» approuva Henri. « Nous allons mettre tout de suite et sans hésitation ton projet à exécution. Surtout que le miel, au surplus, est bien meilleur de goût et bien plus nourrissant que le lait de chèvre, et qu'il se conserve autrement longtemps. » Une ruche contre les deux chèvres. Ah, le voisin la leur donna volontiers. Et voilà les abeilles, infatigables travailleuses, qui s'envolent tôt le matin, butinent jusqu'au dernier moment de la longue journée, qui gorgent la ruche du miel le plus exquis, si bien qu'Henri, quand vient l'automne, en récolte une pleine cruche. Et cette cruche, il la range sur une étagère, dans leur chambre à coucher, parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur vole le miel ou que les souris viennent leur manger à leur insu. Et la grosse Alice se met un bon bâton à côté du lit, un bon bâton de noisetier avec lequel elle pourra chasser les hôtes indésirables sans avoir besoin de se lever. Henri, le paresseux, ne quitte pas volontiers son lit avant midi. « Oh, se lever tôt matin, dit-il, c'est manger tout son bien. » Un matin donc, et c'était tout juste si l'on pouvait encore parler de matin à 7 heures de la journée, Henri, resté au lit pour se reposer un peu d'avoir trop dormi, dit à sa femme, « Dis donc, les femmes aiment les douceurs, pas vrai ? Eh, tu tapes dans ce miel à petits coups discrets, comme une petite chatte. Mieux vaut que nous le troquions contre une oie, avant que t'aies tout lapé à toi toute seule. » « Peut-être, dit-elle, mais en tout cas, pas avant que nous ayons eu un enfant pour qu'il nous garde les oies. Je ne vais quand même pas me martyriser avec les jeunes oies qui naîtront et y laisser le meilleur de mes forces quand on peut faire autrement, ne trouves pas ?
Ah, parce que tu crois que le gosse ira garder les oies ?
De nos jours, les enfants n'écoutent plus rien et n'obéissent plus. Ils font tout à leur idée parce qu'ils se croient plus intelligents que les parents. Tout juste comme le valet qu'on avait envoyé chercher une vache perdue et qui courait après 3 merles.
« Eh bien, répondit Alice, moi je te dis qu'il lui en cuira s'il ne fait pas ce que je lui dis.
J'attraperai un bâton et je te lui en donnerai sur le bas du dos jusqu'à ce que je ne sache plus compter les coups. Regarde, Henri, comme ça !»
Dans son excitation, elle empoigne le bâton de coudrier qui devait lui servir à chasser les souris et voulant lui montrer comment elle s'y prendrait, elle le lève d'un geste large qui s'en va malheureusement faucher sur son étagère le pot de miel rangé au-dessus du lit. La cruche tombe, se fracasse contre le mur et dégringole en miettes par terre où tout le beau miel est répandu. « Oh, voilà l'oie et ses oisons !» dit Henri. « Personne n'a plus besoin de les garder. Bah, c'est quand même une chance, » ajoute-t-il, « que la cruche ne me soit pas tombée sur la tête. » Nous avons toutes les raisons d'être contents de notre sort. Puis, voyant qu'il restait un peu de miel dans un des morceaux, il le ramasse tout heureux en disant « Nous allons déguster le petit peu qui reste. Et puis, après, ma femme, nous allons nous reposer un peu pour nous remettre de ces émotions. Qu'est-ce que cela peut y faire si nous nous levons un peu plus tard que d'habitude. Le jour sera encore bien assez long. Bien sûr, lui répondit la grosse Alice. On arrive toujours à temps. Il y avait une fois, tu sais, un escargot qui avait été invité à un mariage. Il se met en route et il arrive juste pour le baptême de l'enfant. Mais devant la maison, voilà qu'il culbute encore par-dessus la clôture. Ah, tes précipitations n'amènent rien de bon. C'est exactement ça qu'il a dit. Voilà avec trois paresseux. Un roi avait trois fils qu'il aimait tous trois d'un même amour, si bien qu'il ne savait pas lequel désigner pour être le roi après sa mort. Lorsqu'arriva son heure, le mourant appela ses fils à son chevet et leur dit « Mes chers enfants, il m'est venu une idée et je vais vous la faire connaître. C'est à celui de vous trois qui est le plus paresseux que reviendra le royaume. « Oh, père !» dit l'aîné, « le royaume me revient donc, car je suis tellement paresseux que si j'ai une goutte dans l'œil quand je me couche pour dormir, je n'arrive pas à dormir faute de pouvoir fermer les yeux. « Oh, père, le royaume me revient !» dit le second fils, car je suis si paresseux qu'en me mettant trop près du feu pour me réchauffer, mes vêtements brûlent avant que j'aie eu le courage de reculer mes jambes. Père, dit le troisième, le royaume me revient parce que je suis si paresseux qu'à l'instant d'être pendu, si quelqu'un me tendait un couteau pour couper la corde, je me laisserais mourir plutôt que d'élever la main jusqu'au chanvre. « Oh, c'est toi qui seras le roi !» déclara le père, « car c'est toi qui es allé le plus loin !»
une suite de 12 valets paresseux, les uns travaillant à un emploi et d'autres à un autre, et faisant force état de leur paresse. Donc, à la fin de l'après-midi, 12 valets qui n'avaient déjà rien fait de la journée et qui n'entendaient plus se fatiguer, s'étaient couchés dans l'herbe et se vantaient chacun de leur paresse. Écoutez-les, chers auditeurs. Le premier dit : Ah, s'il vous plaît, ne me fatiguez pas avec votre paresse. J'ai déjà bien assez à faire avec la mienne. M'occuper de mon ventre est mon premier et grand travail, car si je ne mange pas qu'un peu, je bois mieux encore. Après 4 solides repas dans la journée, un petit temps de jeûne m'aiguise joliment l'appétit et je ne m'en porte que mieux. Je ne suis pas de l'espèce des lefteaux, ça non. Et quand approche midi, je suis déjà en train de me chercher un bon repos dans quelque coin tranquille. Le maître m'appelle. Je fais celui qui n'a pas entendu. Il m'appelle une deuxième fois. Je prends mon temps avant de me lever, et ensuite je me lève, et il me faut le temps, et après j'y vais doucement, oh tout doucement, avec une sage lenteur. De cette façon, la vie est supportable. Et le second dit « Oh ben, moi, j'ai un cheval à soigner, mais je lui laisse le mort dans la bouche pour pas avoir à le remettre. Et quand je n'en ai pas envie, je lui donne pas à manger et je dis au maître que c'est déjà fait. Comme ça, je peux me coucher dans son avoine et dormir mes 4 heures de rang. Alors, je veux bien consentir parfois à lever un peu la jambe pour lui frotter vaguement le ventre du bout du pied. Comme ça, il est étrié et lustré. À quoi cela mène-t-il de se chercher des complications? Et pourtant, cet emploi est trop dur pour moi. » Alors, chers auditeurs, vous voudriez savoir ce que dit le troisième? Eh bien, il dit « Oh là là, le travail! Oh, il faut surtout pas s'y échiner! À quoi est-ce que cela rime? Moi, je me couche au soleil et je fais la sieste. Il se met à pleuvoir. Mais c'est quand même pas une raison pour bouger! Qu'il pleuve donc, au nom de Dieu! Je t'en fiche! C'est plus une averse, c'est une pluie battante et qui tombe si dru que j'en ai les cheveux arrachés de la tête et emportés si violemment que j'en ai un trou dans le crâne! « Bon, c'est quand même pas une raison. J'y mets un emplâtre et ça va bien. J'en ai déjà vu d'autres !» Quatrième, quand je dois me mettre à quelques besognes, je commence par traînailler une bonne heure pour économiser mes forces. Et puis j'y vais prudemment et je commence par demander s'il n'y a pas par là quelqu'un pour m'aider. Alors je laisse aux bénévoles le soin de faire la besogne, me contentant de les surveiller. Et c'est pas exactement comme ça que ça se passe à la radio. Mais je trouve que c'est déjà beaucoup, et même trop à vrai dire. Et le cinquième se met à rire. Ah,
là là, vous me faites rire, vous autres. Moi, figurez-vous que je dois sortir le fumier de l'étable et le charger sur un tombereau. Oh, c'est dur, vous savez. Et il faut y aller tout doux, tout doux. J'en pique un petit peu sur ma fourche, mais avant de la lever tout à fait, je me repose un petit quart d'heure. Et après seulement, je la dépose dans la charrette. Un chargement pour toute une journée, c'est bien suffisant pour vous épuiser un homme. Vous comprenez? Je n'ai aucune envie de me tuer au travail! Et le sixième s'exclame, mais vous n'avez pas honte, vous autres? Le travail ne me fait pas peur à moi. Je recule devant aucune besogne, à ça non. Seulement, je me couche 3 semaines sans quitter mes vêtements. Et puis, pourquoi lasser ces chaussures? Cela ne me gêne en rien de les perdre du pied. S'il faut monter un escalier, péniblement je pose le pied sur la première marche et l'autre pied suit lentement. Doucement, pour venir se poser à côté du premier. Et une fois que je suis là, je prends le temps qu'il faut pour compter le reste des marches et voir où je vais devoir m'arrêter pour reprendre mon souffle. Cher auditeur, dans cet éloge de la paresse et ce concours de la paresse entre 12 valets, le 7e déclare « Ah, pas question de ça dans la maison où je suis, hein. Mon maître surveille mon travail de près, quoi qu'il ne soit pas là de la journée. Aussi ne suis-je négligent en rien. Je cours autant qu'on peut courir quand on ne veut pas se presser. » 4 solides gaillards pour me pousser de toute leur force. Voilà ce qu'il faudrait pour me faire avancer. Enfin, quoi? Quand j'avise enfin un banc pour m'y reposer, ils sont déjà 6 qui l'occupent et qui dorment. Bon, je me laisse tomber à côté d'eux et je m'endors à mon tour. Mais plus question de me réveiller. Quand je dors, je dors. Et s'ils veulent m'avoir à la maison, ils n'ont qu'à me porter. Et le 8e s'écrie « Oh, vous êtes tous des feignants et je vois bien que je suis le seul gaillard de la bande !» Qu'il y ait un caillou sur mon chemin, je ne me donne pas le mal de lever une jambe. Et puis l'autre, pour passer par-dessus, je me couche devant, par terre. Et peu m'importe que je sois mouillé, crotté ou tout ce que vous voudrez, je ne bouge plus de là et je reste couché jusqu'à ce que le soleil vienne et me sèche. Il m'arrive même parfois de me retourner, oh, légèrement, pour que le soleil brille et me sèche de l'autre côté. Ben ça, c'est du joli. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai failli mourir de faim, avec le pain devant moi, parce que j'avais trop la flemme pour le prendre. Il y avait également une cruche d'eau, mais si grosse et si lourde, que j'ai préféré sécher de soif plutôt que de la soulever pour boire. Me retourner dans mon lit était même un trop gros effort, et je suis restée étendue tout mon long, toute la journée, immobile, comme un bâton.
Et voici ce qu'ajoute le dixième. Et moi, je suis une victime de ma paresse, avec une jambe cassée et des contusions partout sur les jambes. Nous étions trois qui nous étions couchés sur le bord de la route et j'avais allongé mes jambes. Arrive une charrette qui me passe dessus. J'aurais pu retirer mes jambes à temps devant les roues, me direz-vous. Bah, c'est vrai. Seulement, j'avais rien entendu arriver. À cause des mouches qui me bourdonnaient dans les oreilles, qui me passaient par le nez et ressortaient par la bouche. Ah, les sales bêtes! Ce serait quand même trop de travail que de les chasser, non? Moi, j'ai laissé tomber mon emploi hier. J'avais pas envie de continuer éternellement à sortir et à remettre en place les livres pesants de mon maître d'un bout à l'autre de la journée. À vrai dire, c'est plutôt lui qui m'a congédié, excédé de voir ses costumes traîner dans la poussière et manger au mythe, ce qui n'était que justice. Et le douzième et dernier des valets déclare « Mon travail aujourd'hui consistait à mener la charrette au champ. Alors, je me suis préparé un bon lit de paille dedans et je m'y suis couché. J'ai dormi si profondément en oubliant de tenir les rênes qu'à mon réveil, le cheval était aux trois quarts dételé. Le harnais avait disparu avec le collier. La tétière et le mort emportés par quelqu'un qui passait. En outre, la charrette s'était embourbée dans une ornière, ce qui fit que je me recouchais aussitôt dans ma paille. C'est mon maître qui est venu lui-même pour finir, ce qui a tiré la charrette de là. Et s'il n'était pas venu, je peux vous assurer que je ne serais pas couché ici avec vous autres, mais étendu là-bas, dans ma charrette, sur la paille, en train de dormir bien tranquillement. Ces 12 valets paresseux pour aller dans un petit village où habitaient un homme et sa femme. Mais cette fois, c'est la femme qui est paresseuse. Elle était tellement paresseuse qu'elle ne voulait jamais travailler. Elle s'arrangeait toujours pour ne pas filer jusqu'au bout ce que son mari lui apportait à filer. Et le peu qu'elle filait, encore, ne le dévidait-elle jamais, laissant son fil en vrac sur la broche. Le mari pouvait bien gronder. Elle avait la langue mieux pendue et elle lui criait à son tour dessus. « Mais comment veux-tu que je devine mon fil, hein? Puisque j'ai pas de dévidoir. Commence par aller dans la forêt prendre du bois pour m'en faire un. Après, tu pourras parler. » « Oh, s'il y a que ça !» dit le mari, « ce sera vite fait !» Et il partit aussitôt pour la forêt. Alors son épouse trembla à l'idée qu'avec le bois, il lui fit en effet un dévidoir, ce qui l'obligerait d'abord à dévider son fil et ensuite à filer de plus belle. Il fallait éviter cela.
Et elle eut une bonne idée après un peu de réflexion. Elle courut elle-même vers la forêt en se cachant de son mari afin de l'y devancer. Quand elle le vit monter sur un arbre pour y choisir son bois, elle se glissa dans le fourré en bas et s'approcha le plus possible sans qu'il pût la voir. Puis elle cria « Coupé à l'arbre du bois d'aspe fait mourir !»« Et qui veut dévider ne peut que dépérir !» Sa hache levée, l'homme resta le bras en l'air à écouter, cherchant pendant un bon moment à comprendre ce que cela voulait dire, cette voix au milieu de la forêt. Bon, il haussa les épaules. « Oh, c'est rien, un bruit dans mes oreilles. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. » Il empoigna solidement de la main gauche la branche qu'il voulait couper, prêt à abattre sa hache de la main droite.
« Coupé à l'arbre du bois d'aspe fait mourir, et qui veut dévider ne peut que dépérir. »
Ce coup-ci, l'homme était sûr que c'était une voix qui criait d'en bas. Il s'interrompit dans son geste, retenu par la crainte. Pourtant, il se reprit, leva sa hache de nouveau, s'apprêtant pour la troisième fois à couper le bon bois. Et pour la troisième fois,
« Coupé à l'arbre du bois d'aspe fait mourir, et qui veut dévider ne peut que dépérir. »
C'en était assez pour lui. Il n'avait plus aucune envie de se tailler du bois. Il descendit précipitamment de son arbre et se hâta sur le chemin de la maison. Sortant du fourré, sa femme courut à toutes jambes et prit des raccourcis pour arriver avant lui. Quand il rentra, elle était dans la chambre, comme si elle n'en avait pas bougé. Et elle lui demanda, en faisant la candide, «
Alors, mon chéri, as-tu trouvé le bois qu'il te fallait ?»«
Non, pas de bois pour le dévidoir. » Je me suis rendu compte que c'est pas ce qu'il faut. C'est dangereux d'en user. » Là-dessus, il lui raconta l'aventure de la forêt et comment il avait tout laissé tomber. Mais il ne devait pourtant pas tarder à se fâcher de nouveau du désordre de sa maison. Ah, c'est une honte tout ce bon fil qui traîne en vrac. Femme, il faut le mettre en écheveau.
« Et sais-tu ce qu'on va faire ?» lui répondit sa femme. « Tu vas te mettre en haut, moi je reste en bas. Je te lance le fuseau et tu me le relances. Comme ça, nous aurons mis le fil en écheveau sans avoir besoin du dévidoir que nous n'avons pas. »«
D'accord, » approuva le mari, « ça ira. » Quand ils eurent fini, l'homme dit « Bon, maintenant le fil est rangé, mais il faut aussi le blanchir. » C'était ce que craignait la femme. Le rouet libre, il lui faudrait se remettre à filer, filer et filer encore. Et comme elle ne pouvait pas le montrer, elle répondit au contraire, « Oh, mais bien sûr, ce sera mon premier travail demain matin !» Comme cela, elle avait encore la nuit devant elle pour trouver quelques nouvelles ruses. Et elle la trouva. De très bonne heure, le lendemain, elle se leva, fit le feu, mit le gros chaudron empli d'eau à bouillir, mais au lieu d'y tremper le fil, elle y mit de l'étoupe brute, avec le gros couvercle par-dessus. Quand elle le vit bouillir à gros bouillon, elle alla trouver son homme, qui était encore au lit. « Écoute, lui dit-elle, il faut que je m'absente un moment. Lève-toi. « Et surveille le fil qui est sur le feu, dans le grand chaudron, mais fais attention de le faire à temps, car si jamais le coq chantait avant que tu n'y aies regardé, tout retomberait en étoupe. » Le mari sauta du lit, s'habilla aussi vite qu'il put, soucieux de ne rien gâcher. Et quand il arriva dans la cuisine et leva le couvercle du chaudron, qu'est-ce qu'il trouve au lieu de trouver du fil ? Hein, chers auditeurs? Malheur de malheur, il n'y avait plus qu'un magma de filasse horrible à voir.
Le pauvre homme serra les lèvres, ne souffla mot, se croyant responsable de cet affreux gâchis.
Non seulement on peut dire qu'il fait les doux quand sa femme rentra, mais plus jamais à l'avenir il n'osa se risquer à lui parler de fil ou de rouée.
Avant de nous quitter, deux annonces. Ce soir, à Néfiès, la fête du conte. Les contes sont mieux en direct. Et notez bien cette date, le 11 juillet, j'irai conter à Unisson. Les horaires ne sont pas encore arrêtés, mais la date l'est. Et je serai accompagnée d'un musicien palestinien. Et bien, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.